Bon, j'essaie de pas trop plaisanter personnellement, parce que souvent j'ai du deuxième degré, donc je fais un peu gaffe quand même. Je l'utilise beaucoup, et les politiques, ils n'aiment pas du tout.
Oui.
Ça les met en difficulté.
Ils ne savent pas si c'est du
là. Ben voilà. Mais on leur a expliqué que c'était notre force aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la force de l'élection, etc. Nous, ben, c'est la parole, la façon de s'exprimer, et la dérision un petit peu quelque part.
Nous diffusons aujourd'hui la suite des échanges enregistrés le 6 décembre dernier à propos de l'extension de la zone agro-industrielle à Pommac-Bazancourt. Vous devriez normalement en apprendre un peu plus sur les méthodes de décision du Grand Reims. Si vous n'avez manqué la première partie, vous pouvez toujours la retrouver en podcast sur le site de l'émission. Bonne écoute!
Du cri de la betterave lors de l'arrachage. C'est l'histoire d'une betterave qui ne voulait pas sortir de terre. Quel est donc ce mystère? Pourquoi à la récolte cette entrave? Le paysan ne comprenait pas cette obstination. Mais enfin, tu es arrivé à maturation. Tu ne peux plus rester dans ce champ. Non, non, laissez-moi, criait la rebelle. De sa voix indignée, de colère trépignant, cette époque est devenue folle, ajouta-t-elle. Ce que vous faites est contre nature. Pire que cela, c'est une imposture. Ancrant encore plus ses racines dans le sol, non, non, je ne veux pas. Finir dans un méthaniseur ou en biocarburant. Je vous ai donné mon sucre de tout temps et réservé mes pulpes pour vos animaux. Pourquoi renier nos accords ancestraux ? Le paysan se dit alors que c'en était assez d'écouter de cette sotte plante les récriminations. Celui qui commande sur terre, c'est l'homme. Le monde à ses désirs doit être conforme. Il arracha la betterave sans aucune discussion et avec ses congénères la jeta dans le camion.
Avant, on avait une charte
betteravière
qui nous protégeait depuis 2021. D'ailleurs, c'était M. Mahuet, le maire de Doménancourt, qui est au Grand Reims, qui gérait la charte betteravière. Depuis un an et demi, là, elle est tombée en stand-by parce que, il y a deux ans, on nous a fait miroiter le fait qu'on allait faire évoluer cette charte betteravière en l'appelant la
charte des pondéreux.
C'est-à-dire que la charte betteravière, ça touchait surtout Cristal Union et puis
les betteraves.
Ceux qui travaillaient, les transporteurs qui travaillaient pour Cristal Union, mais pas les autres entreprises. Là, ça devait évoluer pour toucher tous les transporteurs du Gaulle.
C'était chouette.
Avant la ZAC.
Bah nous, on a été hyper heureux d'avoir cette idée-là.
On l'a relancé par mail plusieurs fois. Toujours est-il que deux ans après, on n'a toujours pas eu la première réunion préparatrice de cette nouvelle charte. Et que maintenant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle en a parlé dans le 14, là, quand elle nous a vus, comme si elle existait toujours, la charte. Mais finalement, nous, on n'a plus de réunion préparatrice, de briefing pré-campagne, on n'aura pas de débriefing non plus, puisque on n'a pas été consulté, et qu'on a pu, on a abandonné tous les comportements que nous avions avant.
C'était un vœu pieux. Et puis maintenant, ils se prennent les pieds dans le tapis parce qu'ils reparlent de charte des betteraves, de charte betteravière. C'est-à-dire qu'ils ont oublié qu'ils avaient parlé de la charte des pondéreux.
Peut-être qu'ils nous en parlent, c'est pour les 5 ans à venir, enfin disons les 7 ans à venir, en attendant la déviation.
Non, mais ça changera de nom.
Ouais. Et c'est sacrément important parce que si on parle de charte, c'était par rapport au trafic en particulier, mais pas que par rapport au trafic, c'était aussi par rapport aux nuisances. Et vu qu'un certain nombre d'entreprises sont concernées par les nuisances, si cette charte des pondéreux était appliquée, chacun se sentirait peut-être responsabilisé, concerné. A priori, ce n'est pas le cas. Parce que cette charte, elle n'a d'existence que son nom. C'est tout.
Il faut que ça soit contraint,
non.
Et ça aussi,
contraint
les industries.
Non,
c'est pas gagné.
Il faut une volonté politique.
Lors de la réunion du 14, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes de vos villages respectifs ou pas?
Alors, ça a été un grand succès pour nous, franchement. On avait cette crainte. On s'est dit, si on est dit pimpin, on va passer pour des ballots et notre combat, il est fini, il est figé. On avait 250 personnes, c'est royal par rapport aux signatures, parce qu'on n'a pas touché tout le monde, on a fait quand même des flyers pour annoncer la réunion, et on avait dit quand on a fait la pétition aux gens, soyez gentils, signez, mais surtout venez.
Ouais.
Parce que vous signez, ok, vous venez, c'est autre chose. Donc 250 personnes, c'était plein, vu que c'est une relative petite salle des fêtes, c'était bien, parce que c'était bien bondé, ça c'était bien. Deuxième, sur le plan politique, ils étaient 9 ou 10, donc ça c'était plutôt pas mal, ça veut dire quand même qu'il y avait une représentation par rapport à ça. Madame Vautrin s'est déplacée en personne, a pris la parole bien, a contraint la discussion, parce que sa façon de gérer, ça a été quand même très particulier, on l'a tous remarqué, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit, je vous autorise à poser 4 questions, je prends quelques notes et je réponds de façon fermée aux 4 questions. Comme ça, bah, personne, alors nous, on était là, ah, on voudrait bien reparler un peu, mais non. C'était compliqué, mais on est très satisfait de l'impact de ce réunion public.
Ok. Ma deuxième question, c'était par rapport à la... Est-ce que ces personnes-là ont été majoritairement satisfaites de la réunion publique ? Est-ce qu'elles ont été satisfaites des réponses ? Est-ce que ça... les angoisses plus, est-ce que maintenant elles se rendent compte que oh, ben, tiens, finalement ça va être bien, finalement ça a plus du cul.
Ils ont pu manifester quand même leur opinion dans les quais, parce qu'ils ont posé beaucoup de questions, et bien souvent c'était en coordination avec une réponse précédente de Mme Vautrin, et ils revenaient souvent sur le thème des nuisances. C'est un sujet qui est revenu continuellement jusqu'à la fin, elle a dû mettre d'ailleurs un terme à la réunion à 9h, parce que les gens avaient encore beaucoup de questions, je pense.
Oui, ils ont été assez assoiffés d'informations. Et les questions étaient pertinentes. Les questions des visiteurs étaient vraiment pertinentes, bien dans le domaine qu'on avait exposé.
C'est vrai que quand on vit les nuisances au quotidien, on sait de quoi on parle et on sait de quoi on... Qu'est-ce qu'on peut craindre par l'avenir, quoi.
Alors les retours, on en a un certain nombre, de façon directe, on en a un certain nombre par Facebook. Il y a quand même des choses qui sortent un petit peu. De temps en temps, on a un défenseur du projet, quand même, qui dit « Non, mais attends, ça va être super bien, quand même, vraiment Bazancourt. »
Je voulais quand même insister sur une remarque de Mme Vautrin, qui a fait le buzz, d'ailleurs. C'est quand elle a, pour la énième fois, ça, c'est pas la première fois, elle a dit qu'il ne fallait pas venir habiter autour d'un site.
Quand c'est le site qui vient s'installer à côté de chez vous...
Le site était tout petit, il y a 30 ans. Il était comme ça, il y a 40 ans.
Elle a le don d'irriter là, quand elle dit ça. Jean-Claude Georget s'est levé sorti de sa boîte en disant vous n'avez pas le droit de dire ça, parce qu'elle nous l'a déjà sorti plusieurs fois cet argument-là. C'est insupportable. Moi je suis arrivé à 40 ans, j'avais une petite sucrerie de taille humaine, ça ne me posait absolument aucun souci. Non, on n'est plus sur une sucrerie à taille humaine, c'est devenu monstrueux. Les émanations à l'époque, c'était des émanations d'une sucrerie, donc des goûts de sucre chaud, des choses comme ça. Les bassins n'étaient pas de la taille qu'ils ont maintenant, donc les nuisances à l'époque n'avaient rien de comparable. Alors, il y a quand même eu des nuisances au démarrage quand DM s'est installé, parce que pour le coup, les bassins n'étaient pas au point. Et là, il y a eu un collectif qui s'est créé, encore un coup, quand, dedans. Donc. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Tu te souviens, il y a 40 ans bref, pour lutter justement contre les odeurs. Il y a eu déjà à ce moment-là, mais comme je disais tout à l'heure, les choses se sont bien améliorées quand même. Oui, comme quoi, quand on veut prendre les nuisances en compte, on arrive à obtenir quelque chose quand même.
Ben pour le trafic, ça pourrait être la même chose, hein, parce que le premier tronçon des 2,3 km entre le grand rond-point de l'Europe, de l'entrée de Bazan, et puis le rond-point...
De la Croix-Gaudino.
La Croix-Gaudino, voilà. 2,3 km, ça a été entrepris par le SMNR. À l'époque, il n'y avait pas le Grand Rhin, c'était le syndicat mixte norvégien. Et donc, ça a commencé en 2015 ou 2016. Alors, toujours est-il que ce tronçon a été inauguré en 2019, et le Grand Rhin date de 2017. Hein. Mais ce tronçon, il était fait pour continuer et rattraper la 966. Donc, à l'époque, il était déjà les conclusions étaient qu'il y avait une saturation de trafic, notamment poids lourd, sur nos départementales, et qu'il fallait faire cette déviation. Ouais. Maintenant, on arrive à pratiquement 10 ans après, où on remettrait presque en question ce trafic, alors qu'il a continuellement augmenté. On vient le remettre en question presque en nous disant, on ne nous l'a pas dit, parce que si vous acceptez la ZAC, vous aurez peut-être la déviation. Ça voulait dire ça. On avait compris ça, nous, au début, début 2023, parce qu'on avait des reports de réunions où Mme Vautrin, avec les élus de la communauté de Reims, avait émis cette remarque de la déviation se ferait après la mise en exploitation de la ZAC et si le besoin
conditionné aux besoins des industriels.
Donc c'est un peu ça aussi qui nous a motivés dans notre démarche de faire la pétition. Mais comme elle n'a jamais répondu à nos mails, on n'a jamais pu avoir une information là-dessus, après se disant que son jugement avait changé. Et là, dans la réunion, à la réunion du 14, elle nous a laissé entendre que même si la ZAC ne se faisait pas, la déviation se ferait. On avait posé la question, pourquoi la ZAC, elle bénéficie d'une déclaration d'utilité publique auprès de la préfecture. On a posé la question, pourquoi la déviation ne bénéficierait pas elle aussi. Elle nous a répondu que c'était complètement induit un dans l'autre, que c'était pas utile. Toujours est-il que là, dans le courrier du... Sur l'Union, Oui, 30 novembre. Du 30 novembre, elle nous parle quand même d'une déclaration d'état public maintenant. Alors attendez, si je vous le lis, enquête publique, déclaration d'utilité publique, pardon. Donc en 2025. Donc quelque part, elle a fait une adaptation. Mais toujours est-il que elle nous a donné un échéancier 2030. Et là, c'est là qu'on commence à avoir des doutes, parce qu'on a vraiment, on n'avait déjà aucune garantie avant, mais on a encore plus de doutes maintenant, parce que maintenant je vais vous lire son échéancier. Selon Catherine Vautrin, le calendrier de la prolongation de la déviation des betteraves, alors lisons RD 976, est le suivant. Alors en 2024, premier semestre, préparation et organisation de la concertation. Donc la concertation va commencer dans les 6 mois de 2024. Ensuite, de juin à novembre, bilan de la concertation et publication. Bon. En 2025, premier trimestre, études techniques et avant-projet. Et au deuxième trimestre 2025, enquête publique et déclaration d'utilité publique. Là, je ne comprends pas, parce qu'une enquête publique, on ne la fait pas avant la concertation. Et une déclaration d'utilité publique. Pourquoi une déclaration d'utilité publique pour la déviation? C'est pour le foncier. Parce qu'il y a 65 exploitants agricoles qui sont concernés sur les 12 hectares. Oui. Donc, s'il y a une déclaration d'utilité publique, il faut qu'elle se fasse dans la... On ne fait pas une concertation, puis leur dire après, bon, allez, on laisse tomber le... Maintenant, vous faites une déclaration d'utilité publique, donc vous n'avez plus rien à dire, vous acceptez et on vous donnera les terres.
Oui, là, c'est comme si tout était déjà acté, en fait.
Non, mais on a l'impression
c'est
décousu. C'est pas dans l'ordre.
Et on...
La dernière chose, en plus, elle nous donne un échéancier. Jamais elle ne parle du département. Ils sont à 50-50 sur ce projet-là, au niveau financement. Le département n'a jamais donné son aval, n'a jamais confirmé, n'est jamais cité.
Et elle nous dit qu'il n'y aura peut-être pas de ZAC, qu'il n'y aura peut-être pas d'éviation, alors qu'il y a un échéancier fait.
Donc,
vous avez la chance d'avoir du bibliosourcier.
Alors, le syndicat mixte d'André et moi, initialement, avait dans ses prévisions les deux tronçons. Celui qui a été réalisé et le deuxième. Une fois que le premier qui a été réalisé a été terminé, le deuxième a été mis de côté. Ça, je ne sais pas pourquoi.
D'un financement.
Et maintenant, on est en train de remettre sur pied le projet à partir de maintenant, alors qu'en fait, il a 15 ans.
Pour le premier projet...
Mais c'est complètement... Parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du rétro-planning, mais...
Sur le...
Vous êtes arrêté à 2024, donc bilan de la concertation et publication. Oui. 2025, premier trimestre, études techniques et avant-projet. Deuxième trimestre, enquête publique, déclaration d'utilité publique, autorisation au environnemental. Mais alors, 2026-2027, études du projet. Donc, re-étude du projet.
Oui, oui.
Et 2028-2030, réalisation prévue. 2028-2030, réalisation prévisionnelle des travaux. Alors, ça veut dire quoi?
La logique, le bon sens voudrait que dès 2024, il y ait une enquête publique et qu'ensuite il y ait une déclaration d'utilité publique. Et puis après, on discute là-dessus. Voilà l'idée, voilà la règle du jeu. On donne la règle du jeu et après on construit.
Mais là, je ne sais pas si c'est la règle du jeu, mais attendez. Pour un méthanisant de Bétenier, on a eu à la mairie un cahier.
Oui, je suis allé.
C'était quoi? C'était C'était une enquête d'utilité publique.
Oui. Non, c'était une enquête publique. Non, c'est pas une enquête d'utilité publique. L'utilité publique, c'est une déclaration auprès de la préfecture.
Oui, mais d'accord, mais il y a eu le cas des habitants.
Une enquête publique.
Une enquête publique.
Mais ça, on sait très bien que ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Donc, une enquête
on l'a eu également pour Métabase,
on l'a eu. Il y avait, je ne sais plus combien, 300-350 remarques pertinentes. Le préfet en a retenu 4 ou 5 qui portaient sur le paysagisme du site côté sud. C'est tout.
Avec ce que vous venez de dire, moi je comprends que l'étude technique et l'étude d'impact arrivent après la concertation. Bien sûr.
Oui.
Mais alors, elle va se faire sur la base de quelles informations?
Je ne sais pas, ils ont pris ça en vrac.
Quelles informations seront communiquées aux acteurs pour qu'ils puissent prendre une décision?
C'est la nébuleuse du grand. Je ne sais
combien de temps.
On a l'impression qu'ils nous disent tout ça pour dire
qu'on
veut de déviation.
Non, mais on voudrait.
C'est tellement lointain.
On voudrait croire en eux, mais on se demande s'ils ne font pas exprès de nous saper le moral.
Ça ne prête pas trop à avoir confiance.
Non.
Ça ne porte pas à avoir confiance.
C'est désordonné.
Vous ne faites pas d'efforts quand même pour faire voler des avions en plus.
Ouais, franchement. Ouais. Avec de l'économie, avec du bio-carbone.
Pour revenir à Carins, maintenant on a des bio-avions.
Bardelcourt a fait voler son premier avion avec son truc là. Hein. Il était tout content. J'ai l'article quelque part. Ça va fonctionner. Alors, au contraire, on parle. Si, ça, je pense qu'il a atterri. on ne parle pas du coût d'énergie fossile.
Nécessaire pour le réaliser le. On n'en parle jamais.
Jamais.
Non, jamais.
Mais c'est hallucinant.
Ça, c'est dans tous les.
Oui,
tout ce qui est tous les domaines. Hein.
Alors, pendant la réunion publique, là, il a été. Nous, on est en demande d'information et en demande de participation, non pas aux décisions, mais aux réflexions. Il nous a été promis la mise en place d'un comité de suivi de site. Comité de suivi de site au niveau du sous-préfet, dans lequel un représentant de chaque collectif pourrait intervenir et apporter sa pierre. J'ai fait un petit message, moi, il y a 3 jours, à nos responsables politiques, donc les maires du coin, Cristal Union et le Grand Reims, en disant que le comité de suivi de site, vu le temps de sa mise en place, le temps de retrouver des informations, de tirer des conclusions, etc., ça allait mettre un temps fou, et que nos nuisances n'étaient pas prises en compte maintenant. Hier midi, j'ai eu la surprise d'avoir un coup de fil de Madame Vautrin, en me disant, le comité de suivi de site, je vous appelle pour vous informer de ça, j'ai contacté le sous-préfet, le comité de suivi de site va être mis en place très rapidement avant la fin de l'année. J'espère que c'est la bonne année, c'est le seul doute que je peux avoir.
Elle n'a pas dit quelle année.
J'ai pas osé lui demander. Et voilà, donc quelque part elle se mouille quand même un petit peu, enfin, je pense qu'ils ont un petit peu la trouille, parce qu'on remue un peu trop quand même. On les embête un peu là. Et puis on les pousse dans leur retranchement parce qu'ils n'ont pas des réponses à toutes nos questions, c'est une évidence, parce qu'ils n'ont pas été assez loin encore dans le raisonnement. Donc voilà, ils sont quand même à l'écoute de tout ce qu'on va dire sur eux.
Ils n'iront pas loin dans tout le raisonnement parce que de toute façon, ça leur coûterait beaucoup plus cher. Rien que par rapport à, par exemple, la centrale de Roubaix, si on veut vraiment éviter les pollutions sur les personnes pas très loin, il faut des filtres spécialisés, enfermer les structures pour que rien n'échappe et que tout soit filtré,
mais
tout ce qui va aller à l'extérieur soit filtré.
C'est pas possible. Bien sûr.
Oui, mais chaque fois, ils auraient la possibilité, mais il faut mettre la main à la poche. Voilà. C'est comme la méthanisation. Le digesteur, il monte à 45 degrés. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans le digesteur tous les métaux lourds, les pesticides, les antibiotiques, enfin tout ce qu'on peut. Ouais. Alors que s'il montait à 70-75 degrés, il y en aurait presque rien, 10%, 15%. Ça serait éliminé, mais ça revient trop cher de monter le digesteur à 75 degrés. Donc on fait ad minima.
Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur Madame Vautrin, ils se sont peut-être aussi, ils ont peut-être été surpris du nombre de personnes présentes à la réunion.
Probablement, je pense.
Parce que si vous aviez peur qu'il n'y ait qu'une dizaine, eux, ils s'étaient peut-être dit, oh, de toute façon, ils vont être une poignée, 20, et maxi, et puis...
Donc, c'est pour ça qu'elle a pris la réunion en main, pour la maîtriser, quelque part. Parce que...
Et est-ce que ce qui a été dit, c'est-à-dire des informations auprès des autres conseils municipaux, ceux qui n'avaient pas du tout reçu d'informations avant cette réunion, est-ce que ça a eu lieu?
Elle a dit qu'elle allait les expédier, oui. Parce que, mais je me suis posé la question, parce que ça intéresse qui? Ça intéresse les conseils municipaux du territoire autour de la ZAC. Ça n'intéresse pas les 143 communes, quand même. Donc,
finalement, il y a très peu de conseils municipaux concernés.
Il y en a très peu. Donc, je pense que, à mon avis, c'était ça.
Parce que avant la réunion publique, il y a eu une intervention dans les trois mairies principales. Pomac, Bourgogne-Fresnes, Bourg-sur-Cîbe et Bassompierre.
Ils sont allés respectivement.
Moi, je suis allé à celle de Fresnes. Et le but, c'était de présenter le diaporama au conseil municipal. C'était avant la réunion.
Oui, c'était les techniciens du Grand
Est. Le but, c'était... Donc moi, le diaporama, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu la veille et puis je l'ai vu le jour de la réunion. Le but, c'était un peu de préparer les conseils municipaux à ce qu'ils allaient entendre.
Et c'était la raison pour laquelle elle ne voulait pas nous recevoir, faire une réunion avant que les élus n'aient été mis au courant. Voilà.
Et Mme Romani, qui maintenant est sénatrice, qui était maire de Bazancourt, nous dit, en tant que sénatrice, je fais confiance à mes élus.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta, de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur. Coupé par mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien à la plage. du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Les dernières élections municipales de 2020, aucun maire, aucun conseil municipal n'avait dans son programme la ZAC.
Ouais.
Donc la décision qu'il va prendre maintenant, il va le faire sans consulter les populations. Donc il a une lourde responsabilité quand même, hein, le conseil municipal. Et le maire a le veto pour les trois communes concernées par la ZAC, hein, c'est-à-dire Bazan, Boult et Pomac.
Ah, le maire a le veto.
Ça, c'est en théorie. On sait en pratique que c'est que le Grand Reims a la main et que même si un droit de veto venait à être émis, ils peuvent ne pas en tenir compte. Et c'est dans la loi, ça. Dans leur règlement, en tout cas.
Ça, c'est très clair. Il me semble bien que moi, j'étais à Vacarme.
Oui, très bien, oui. Bah oui, ça faisait du bruit.
Justement, madame Jolie avait dit qu'elle avait réussi à faire inscrire justement dans le... Alors peut-être dans le règlement intérieur, je ne sais plus dans quel texte c'est du Grand Reims, que si une commune refusait, le projet ne se faisait pas.
Alors ça, c'est OK, c'est effectivement l'expression du droit de veto des communes, mais on a, par des informations récentes, la notion peu près certaine que, de toute façon, dans le règlement intérieur du Grand Reims, ils peuvent ne pas en tenir compte. C'est précisément, parce que justement, ils ne veulent pas être coincés par une voix qui dit non. Et donc, je pense que c'est ça que tu es en train de chercher, on sait que le Grand Reims peut passer outre.
C'est certain, ça. On sait que la démocratie, c'est aussi cause toujours.
Et elle l'a exprimé en disant clairement que si le maire disait non, voilà.
Ok, je regardais juste dans où est-ce qu'on était. Donc, je suis dans 2.3, la charte de gouvernance
du Grand Reims.
Et la référence du document, il est à l'intérieur. Non, dedans. Je l'ai recopié.
Rapport d'observation définitive, communauté urbaine du Grand Reims, département de la Marne. Le présent document a été délibéré par la Chambre le 25 juin 2021. Accrochez vos oreilles. La Chambre observe que la mise en place d'un droit de veto au profit des maires est contraire à l'esprit d'intégration induit par le statut de communauté urbaine et contrevient aux dispositions du CGCT, en vertu desquelles les instances décisionnelles communautaires ont le pouvoir d'adopter des décisions en lieu et place des communes membres qui sont dessaisies des compétences transférées.
Oui, donc soit tu es d'accord, soit ils prennent la main
T'es d'accord.
À ta place.
Mais ça, c'est... Et notre maire, il y a un an, nous a dit, comme ça, c'est plié. Bah oui, c'est plié, parce qu'en fait, il s'est trahi. Pour le coup, il a bien compris ça quand même, que de toute façon, il n'est pas au beau chapitre. Et que quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, donc tant qu'à faire, autant dire oui. Quoi. Enfin,
c'est ouais, mais là, pour le coup, c'est...
Oui, mais non, il peut dire non,
voilà.
Mais il devrait au moins...
Ça changera dans la lignée de ses concitoyens.
Et on est d'accord.
C'est pas fini.
Il y a une suite.
J'ai pas fini. De plus, la Chambre relève que si, en application de l'article L5211-17 du CGCT, les décisions du Conseil communautaire dont les effets ne concernent qu'une seule... des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune lorsque cet avis est défavorable. Le dernier mot appartient au conseil communautaire de l'EPCI qui prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres. La Chambre prend note que, selon l'ordonnateur, la charte n'a pas de portée juridique et que le conseil communautaire a la possibilité de passer outre l'avis du conseil municipal.
Ah, bah ouais, c'est
ça, c'est la réalité.
Merci.
C'est Étienne qui a trouvé ça, je crois.
Mais en fait,
on a une paire de fouilles merde dans la noix.
C'est bien.
Mais c'est ça.
Mais, voilà. Mais quand on veut l'info, on finit toujours par la trouver parce qu'il s'est tapé ça. Donc alors, je crois qu'il n'a pas tout lu.
Il a 89 pages.
Il n'a pas tout lu, il a mis des mots-clés pour essayer de trouver l'information.
C'était sur deux pages.
On a bien ce que...
Donc notre pétition a eu le mérite de provoquer cette réunion publique, de provoquer Mme Vautrin de devoir venir expliquer un certain nombre de choses, avec son langage à elle, avec sa façon de communiquer, avec... Voilà. Mais bon, après, on en est là.
Mais c'est pour ça, en réaction à ce que vous dites là. Nous, on demande à assister aux réunions, par exemple. On a demandé pour, tu citais tout à l'heure, pour le comité de suivi.
Comité de suivi. Ouais.
Mais on avait demandé en début 2023 à assister au COPIL. Le COPIL, c'est le comité qui pilote la déviation. Donc c'est quelqu'un, ce sont des membres du Grand Rhin, c'est du département. Donc ça nous a été refusé, et c'est Madame Boutin qui a refusé, puisque le département était d'accord. Et, c'est elle qui a refusé, je crois.
Toujours pareil, parce qu'ils veulent monter leur dossier, machin truc, avant de les soumettre. Alors, le mot tout à l'heure que je cherchais, c'était la temporalité. On adore ce terme-là. C'est-à-dire qu'en fait, leur temporalité s'impose, et du coup, vous serez informé.
C'est justement parce qu'en pouvant assister, on peut lutter contre cette temporalité.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'avant que ça soit ficelé, eh bien, il y a moyen d'alerter les populations et de réagir. Quoi.
Et je repensais tout à l'heure quand vous expliquiez que peut-être que cette grosse usine-là pourrait s'implanter peut-être plus à Arcis-sur-Aube. J'ai l'impression que des fois, il y a un gros projet, il y a un autre projet mis...
Plan B.
Ouais, un plan B. En mode, on va tester. Et suivant la contestation, on verra si on réoriente autre part.
Ça peut être ça.
Soit à l'instant que ça se calme là-haut, soit pour tester autre part si ça marchera mieux. Et j'apprends que ça se fait de plus en plus pour beaucoup.
J'ai un coup de fil d'Arcis-sur-Aube, excusez-moi. Alors, si l'histoire de la grosse usine fonctionne, Marc Delcourt, il projette d'en faire plein. Hein.
Après,
lui, il a les dents longues. Hein. Il dit, mais je vais couvrir le territoire de mes usines.
Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à des commissions de concertation, à Vacarme, ça avait été ça pour la fermeture de la baie à Saint-Denis. Vacarme avait demandé à assister, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais c'était avec le département, le Reims, la communauté de Reims. Pour justement savoir ce qu'on allait faire des terrains qui étaient disponibles, et ça n'a jamais été accepté. Parce que Vacarme avait aussi des propositions à faire.
Voilà.
On n'était pas seulement contre. On a réussi à ce que ça ne soit pas un terrain d'aviation. Mais on avait des propositions qui ont installé des.
Mais propositions qui viennent de la base, qui viennent et qui ne sont pas audibles parce que ils veulent. Voilà. Donc on laisse les associations bouger un petit peu dans leur coin, s'exprimer de temps en temps quand on est coincé, mais au final...
Alors on est un peu l'idiot utile du système, ça, quoi. Nous, on attaque, c'est ça aussi. Quoi.
Oui, complètement.
Ça les amuse. Vite, mais ça retombe vite, c'est ça. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, parce que c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à se concerter. Justement, il faut de la concertation au niveau des assos. Voilà.
Et là, moi, il y a...
Parce que vous battez pour un environnement. L'association là, qui va se bagarrer contre la centrale à Bitume Marin, c'est la même chose.
Et l'intérêt, ce serait de fédérer tout ça.
Voilà,
tout à fait. Globalement, un mouvement de contestation vis-à-vis du Grand Rhin, c'est vis-à-vis de leur projet.
Les projets photovoltaïques sur terre agricole.
Le Blanc-Mont à Courmontreuil.
Le Blanc-Mont à Montreuil, terre patrimoine.
Que là-bas le photovoltaïque. Là.
Je pense quand même que le Grand Rhin, ils ont un peu la crainte là, qu'on fasse un amalgame entre ces différents éléments. Je pense que ça. C'est maintenant ou jamais qu'on peut peut-être enfoncer le clou en essayant de faire une espèce de collectif de toutes ces nuisances à venir. Là.
Et qui s'appelle Orion sous le vent de la Terre.
Tout à l'heure, on a surtout parlé des betteraves, mais c'est toute l'année quand même que je tiens à corriger, que nous avons un flux de camions, mais qui, on va dire, le minimum, ça va être, mis à part un samedi, un dimanche ou un jour sans, mais la moyenne, ça sera au moins 200-300 camions quand même à la journée. Ouais, c'est le petit chiffre, ça.
300 camions.
Non, mais ça, c'est le minimum, je dis en dehors. Mais bien sûr.
Ils viennent de loin, ça aussi.
Mais, non, mais c'est par rapport à la plateforme. Toute l'année, il va y avoir un échange. Même les betteraves vont être finies. Il n'y aura plus de camions bennes. On est d'accord. Mais il va y avoir des citernes de jus, donc de sucre. Et ça, c'est toute l'année.
Ouais, il déplace beaucoup de choses, en fait.
Alors le sucre, il peut être liquide, il peut être en poudre, je ne sais pas. Et ça va vers l'Aisne.
Il y a la sucrerie de Lignicourt qui a fermé, mais qui sert de site de rétention, en fait, pour toutes sortes de produits.
Donc il y a tout un trafic qui se fait vers ces sites-là. Ça, effectivement, c'est toute l'année. Le projet de ZAC, si ce sont des industries différentes de la sucrerie, cette fois-ci, ça va devenir aussi pérennuel. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des camions, pas que pendant la bête, parce qu'on en a tout le temps, mais il va y en avoir toute l'année en plus.
Alors l'année agricole, elle se découpe aussi avec les luzernes. Les luzernes, ça va du mois d'avril au mois de septembre. Donc il y a X coupes. Donc il va y avoir peut-être une petite semaine de calme, et puis après ça repart. Donc, et après il y a les céréales. Mais les céréales, c'est pareil, il y a le grain, il y a les moissebattes qui sillonnent. Normalement, c'est du transport exceptionnel, normalement. Mais chez nous, il n'y a jamais un véhicule devant avec une arrière.
Je
suis autonome. De toute façon, on n'a pas de contrôle.
Les moissonneuses-batteuses, on voit bien que quand on se promène, c'est rare qu'ils aient une voiture devant.
À l'issue d'un débriefing de campagne betteravière il y a 2 ans, on a posé la question devant tous les élus, la gendarmerie, à M. Villain, qui est le responsable du pôle camion, combien de chauffeurs avaient fait des excès de vitesse, avaient été verbalisés. Il nous a dit 0. Vous vous rendez compte ? 0. Sur une rotation, c'est par milliers de camions. Quand on se dit qu'il y a 1500 ou presque 2000 camions à la journée pendant la campagne de betterave qui tourne 2 mois. Et alors que quand on croise ces camions en dehors des villages sur des routes départementales qui sont à 80, si vous roulez à 80, vous vous faites doubler par le camion Ben.
Alors là, ce n'était pas un camion Ben, c'était un camion citerne au moment des vendanges.
Oui,
un transporteur qui est à Bétheny. Je m'engage, moi, sur la voie des tondeurs. Alors, j'ai une Smart, j'ai une vraie voiture, mais là, j'étais en Smart. Donc, vous voyez...
J'adore la vraie voiture.
Donc, au rond-point, moi, je prends le boulevard des tondeurs. Le camion, il descendait de Vitry. Oui. Et il me colle vraiment derrière, sachant que c'était un camion-citerne énorme, quoi, le truc. À partir du moment où la voie s'élargit, mais il n'y a encore qu'une voie, c'est juste que ça s'élargit. Il a essayé de faire le forcing pour doubler, donc là je me suis remise un peu plus au milieu pour garder ma place. Et il sortait, donc dès qu'il a pu, il m'a doublé, et il sortait, il m'a fait une queue de poisson, parce qu'il sortait à la première sortie.
D'accord.
Et franchement, alors je m'étais dit, c'était un vendredi soir, je crois, et j'ai dit, il faut que j'appelle quand même l'entreprise pour leur dire qu'ils roulent n'importe comment. J'ai complètement oublié de le faire, mais franchement, c'est...
Ça, il ne faut pas hésiter.
Mais on l'a fait.
On demande à nos citoyens de prévenir la gendarmerie. Tant pis, c'est peut-être une main courante. Mais voilà, si X signalement qui peuvent... en disant qu'il y a des conditions de circulation qui sont anormales, quoi. Et c'est vrai que les poids lourds sont un peu...
Et surtout que là, pour gagner quoi, il sortait à la première sortie, donc s'il gagnait 10 secondes, c'était...
Pour nous, sur la D30 ou la D64, ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas un seul contrôle de gendarmerie. Et encore moins dans les villages. Et il y aura pourtant, en dehors de ces portions-là, il y aura des contrôles de gendarmerie le soir en rentrant du travail. Il y en a. Mais pas sur le trajet.
Et de toute façon, les poids lourds de betterave sont exempts de... Je pense qu'ils ne seront pas contrôlés par Même s'il y avait des contrôles, on contrôle les voitures, mais on ne contrôlera pas les camions. Alors, si je peux rajouter un tout petit point quand même. Moi, je suis médecin en retraite. Étienne est médecin en retraite. On se pose, nous, la question aussi de l'impact santé de ces zones. Alors, on n'a pas de preuves scientifiques, on n'a pas d'études, on n'a pas de tout ça, mais des odeurs avec des flux de toutes sortes de produits qui circulent dans l'air, le bruit incessant qui est pénible, qui énerve, etc. Le fait de rouler sur les routes qui met les gens dans des états de stress importants, on peut quand même se poser la question du retentissement de tout cela sur la santé de nos concitoyens, indépendamment des aspects accidentogènes ou autres. On peut penser quand même que nos gens ne vivent pas dans un environnement reposant et paisible. J'ai quand même besoin de le dire parce que on n'a pas de preuves. Et si je dis ça à Madame Vautrin, elle va me dire, attendez, montrez-moi un petit peu le retentissement. Ça ne se montre pas, mais ça existe.
Il y a déjà eu énormément de... Déjà, je pense que quand j'avais assisté à des conférences sur en faveur du mouvement minier. Ouais, les explosions de têtes d'éclair, il n'y a jamais eu d'études sur la santé, ce que ça avait pu créer.
Ils ont fait des études sur le nombre de morts après la fermeture.
Oui.
Mais avant.
Il y a aussi, là j'avais fait la remarque à la réunion pour le bitume dans le vignoble. L'utilisation de pesticides, insecticides et autres, là, est intensive. Il n'y a pas eu, avant, je crois, 2000, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, d'études sur la santé des vignobles. Alors, il n'y a pas d'études de fait.
Parce que ce n'est pas nos politiques qui vont les lancer, ils n'ont aucun intérêt.
Et puis, sans compter que, par exemple, la personne qui est propriétaire, si vous êtes propriétaire de votre maison, quand il y avait la petite sucrerie, là, bon, tout allait bien. Sauf que là, votre maison, est-ce que quelqu'un a envie de la racheter?
C'est une des questions qu'on a posées sur l'aspect immobilier du secteur. Alors, elle a dit textuellement, non, s'il y a de l'emploi, au contraire, l'immobilier va s'améliorer. On aura de la demande.
Ouais.
Et c'est que...
C'est
comme ça qu'on a réussi à financer, étant membre de la CDPM, les recours juridiques en faisant, en contactant nos assurances pour le déficit, enfin disons la perte de valeur immobilière de la maison par rapport au site industriel.
Clairement, parce que...
Et c'est ce qui a financé nos trois recours.
Alors pour vendre sa maison, là, il faut calculer son coût quand même. Il faut qu'il vienne quand il n'y a pas d'odeur, quand il n'y a pas de bruit, et que les camions ne circulent pas. Donc, un jour de manifestation, parce que quand nous on fait des manifestations, ils ne font pas circuler.
Il faut que le train soit en visite dans le village concerné. Parce que quand elle vient, en général, il n'y a plus de camions.
Ils roulent pas.
Ils ont la capacité à limiter la circulation.
Surtout si elle reçoit une sommité
de l'Europe, ou du gouvernement français.
Tu sais, c'est comme quand tu as un ministre qui se déplace dans une école, ils vont repeindre ou ils vont nettoyer comme jamais pour qu'il voit un peu...
Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est faire passer le Tour de France chez nous.
Ah ouais.
Bah, ils sont loin, on a des routes correctes.
Ah bon, ils sont passés au moins trois fois en 30 ans.
Bon, voilà un petit peu l'aspect de notre pôle.
Ma question vous éloigne un peu du sujet, mais... le Grand Reims en tant qu'institution, donc en surplomb sur les communes et imposant ses choix aux communes, ça existe depuis quand?
Le Grand Reims, il date de quoi?
De 2017.
Donc, ouais. 2017, ouais. Ouais.
C'est depuis la... C'est bien votre âge, c'est le début.
Là,
c'est...
ça a été mis dans le décret, enfin disons, c'est 2021.
Eh bien, oui, ils ont regroupé les communes. Les 143 communes, là, c'était le maire d'avant, M. Combes. Les élections, les dernières, c'était quand?
2020.
Il y a eu 2 ans, donc oui, c'est 2017-2018. La notion de Grand Reims comme grosse structure pour se donner une puissance...
Il y avait déjà la communauté de communes.
Mais c'était les grosses communes, Quincampoix, Montreuil, etc. Et ils ont inclué les 143 communes. Voilà.
C'était pas avec la loi NOTRe.
Je sais pas.
Il y a des textes qui, à la fois définissent et encadrent les pouvoirs de telles
institutions.
Bien sûr. De toute façon,
le règlement dans lequel on a puisé tout à l'heure l'information, oui.
Il y a certaines choses, par exemple, la voirie, c'est des compétences du Grand Reims. Les communes ont été
dessaisies
de certaines de leurs missions.
Les départementales, qui sont
les départementales. Oui, départementales, c'est la Marne.
Oui, mais pour la voirie municipale, c'est le Grand Reims maintenant dans toutes les communes qui gère ça.
Dans le passage que vous évoquiez là, tout à l'heure sur donc la possibilité pour le Grand Reims de s'asseoir sur ce que pourrait décider
une commune
concernée, il y a à un moment donné votre propos, ou c'est vous qui disiez, renvoyé à des textes réglementaires. Non, c'est pas ça.
Donc, c'est issu du règlement du Grand Reims.
C'est ça, oui. Légitimement,
Oui.
Hein, la décision donc de communauté de communes s'imposant.
Oui, voilà. C'est clair.
Ce que j'ai retenu, c'est que tu as une charte qui prévaut sur la réglementation. On fait une charte pour dire que pour que ça se passe bien.
Il y a un règlement et il y a un espèce de truc qu'il y a au-dessus qui ne tient pas compte du règlement.
Si les gens suivent pas le
on dit toujours qu'une charte, ça n'a aucun
c'est un bonheur, ce truc-là.
Nous, quand on se plaint, on fait référence à la charte, mais très bien, on dit oui, c'est ce qu'on veut, on tend vers.
Vous êtes des premiers,
mais ça n'a pas.
Ça. C'est ce qu'on veut regarder un peu comme argument, parce qu'on se méfie un peu quand même. Ouais, ouais. Et donc, mais là, enfin, voilà, il faut dire les choses. Et quand Mme Vautrin dit, lors de la République, le maire a le droit de veto. Alors lui, il s'est écrasé parce qu'il a dû se dire, il ne faut pas que je le ramène là.
Ouais. J'ai le droit.
J'ai le droit de dire non.
Parce que moi,
Non, parce que c'est un biais sur lequel il faut faire bosser des juristes, quoi. Mais ça devient compliqué.
Ça devient lourd. C'est tout le problème. Oui, par rapport à la ZAC, on s'est aussi posé la question d'aller plus haut.
Qui devrait exister dans d'autres communes, ça. Parce que...
C'est pas dit, hein.
Faudrait voir, par exemple, avec la... à la Neuvillette, là, avec lui.
Oui.
Est-ce que la mairie, ils sont en phase avec la France, la mairie de la Neuvillette?
Parce que cette histoire de charte, là, c'est une prérogative du Grand Reims. Ça n'existe peut-être pas ailleurs. Hein.
Ah bah oui,
ils se sont donné cette
règle de fonctionnement.
Je sais pas.
Alors, non, il n'y a pas de village.
C'est au Reims. Il y a tous les maires du Grand
Reims. Il y a qui? Exactement. Il y a des villages qui pourraient être impactés par les... Oui, mais ils font ça avec les affaires.
Voilà.
Ah oui,
mais alors, faut lire, il faut comprendre. C'est pas méchant de dire ça, mais tout le monde n'a pas la capacité. Ce qui se lit entre les
deux.
Oui, il y a l'expression.
Bien sûr.
Donc, il se retrouve dans la même situation.
Oui, qu'il était un méchant.
Parce que ça serait bien que le cas s'en reproduise.
Vous voyez que pour le méthanisme de le préfet a donné l'autorisation alors qu'il y avait le projet de microville de Courtrai.
Ah oui, oui.
Et pratiquement le méthaniseur, il touche les terrains de la microville.
Notre maire d'avant, M. Combes,
s'est
opposé.
Il y avait
et puis il a terminé dans le droit chemin. Alors il a démissionné, je ne sais pas trop par quel truc ça s'est passé. Et le maire d'après, j'ai
dit. Oui, je sais.
De toute façon, on ne peut pas s'opposer.
Et puis vous avez quand même donné l'autorisation à la ferme.
Est-ce que vous avez des... Parce que quand on nous avait parlé du méthaniseur de Bethny, on nous avait laissé entendre qu'il y aurait une ouverture derrière la péniche, là, dans la continuité de l'ancienne 966, pour que les poids lourds... Après, on a entendu dire qu'il n'en était plus question, parce que là, ils allaient faire un parc de je ne sais plus combien d'hectares.
10 hectares.
10 hectares, oui.
10 hectares.
C'est
un parc de 30 de voitures de transit, en fait, qui serait amené par poids lourd, transiterait là 24 ou 48 heures et repartirait pour une destination autre. Une espèce de centre de rétention de voitures. Voilà. Et donc, ça se fait entre la péniche et puis.
Et qu'il n'y aurait plus de possibilité d'accès sur le site pour le méthaniseur.
Oui, tout à fait. Mais...
Ce qui voulait dire, nous, c'était important parce que ça voulait dire que tout ce qui vient de la plaine de l'Aisne, au lieu de rentrer directement sur la base par derrière la péniche, eh bien, il faut qu'il revienne par la D30 sur
Bourgogne,
qu'il fasse l'angle droit dans la mairie. Enfin, c'est des camions d'Aisne sur un croisement à angle droit sans étroit et tout.
Mais je ne sais même pas si le méthaniseur va se faire, je ne sais rien.
Si, mais il aura une particularité.
Mais apparemment, le méthaniseur, enfin dans les projets, hein, parce que moi j'ai lu que les documents que vous trouvez, c'est méthaniseur, mais à terme c'est de l'hydrogène.
Voilà, j'ai entendu parler d'hydrogène aussi.
C'est quoi? Alors ça, c'est le plan B, si jamais
le
gaz ne va pas.
Sébastien en a parlé.
Mais... C'est une extension du méthaniseur.
Donc, alors, pour multiplier les énergies vertes, en fait,
pour le après, ils savent que, en théorie, l'hydrogène aurait plus d'avenir
que le gaz.
Sauf que pourtant, c'est pas totalement au point, je crois, mais dans la course à l'énergie, partons déjà sur l'hydrogène.
Et dans le premier projet, c'était aussi une plateforme pour l'hydrogène. Il y avait le méthaniseur, mais il y avait aussi l'hydrogène. Mais ce qui a été présenté à Bethny, c'était simplement le méthanisme. Ils n'ont pas du tout parlé d'hydrogène. Mais les documents de, qui étaient sur le net, hein, qui sont sur le net, c'est une plateforme avec de l'hydrogène, ouais, pour le futur.
En tout cas, on voit bien que les luttes locales ont bon vent. Et qu'elles ont de l'avenir.
Ben voilà, nous, on est jeunes retraités, là.
Bon vent ou mauvais vent.
Vous pensiez vous ennuyer à la retraite,
non.
Regardez.
Non, je savais que le hasard a fait que, mais c'est...
Ouais. Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas, merci.
C'est nous qui vous remercions de nous donner la possibilité de d'expliquer un petit peu tout ça, de le faire connaître. Et puis peut-être de ultérieurement se structurer avec d'autres soucis locaux. Ça me semble quelque chose d'utile. Parce que manifestement, le Grand Rhin, ils ont pas envie qu'on parle trop de la centrale, de ça. Et il y a déjà quand même quelques bruits qui courent quand même. Il y a tel projet. Des fois, ils sont reliés, ces projets-là.
Non, mais ça, c'est la conception de la démocratie où l'on convoque au bout d'un certain nombre d'années régulièrement les citoyens pour les amener à s'exprimer, mais sorti de là, on souhaite qu'ils restent apathiques.
Ouais, c'est sûr.